de la socialisation, tout à fait capital de comprendre que notre action éducative se situe à l'intérieur de ce processus. Donc c'est d'abord la famille, bien entendu. Ensuite, l'école, et puis la cité, le quartier. Et donc, quel est l'enjeu, là? C'est celui d'arriver à ne pas confondre les rôles et à les articuler. Qu'est-ce que l'enfant découvre, le bébé, dès sa naissance dans sa famille? Il découvre un interdit majeur qui fait de nous des êtres humains. Et d'après certains anthropologues, c'est là l'origine même du passage de la nature à la culture, de l'animalité à l'humanité. C'est l'interdit de l'inceste, l'inceste vertical. Parce que l'inceste horizontal était très longtemps pratiqué entre frères et sœurs, cousins, etc. Mais là, je parle de l'inceste vertical entre géniteur et enfant. Donc cet interdit de l'inceste fait que le sujet se découvre progressivement comme sujet unique, comme individu qui ne se divise pas, comme individu singulier qui... il m'arrivait de dire à des élèves quelquefois qui avaient des difficultés. Je subodorais qu'ils avaient quelques difficultés personnelles, psychologiques, familiales, etc. Et je leur disais de temps en temps, vous savez, il y a quand même les suicides de mineurs en France, de moins de 18 ans, c'est à peu près, on hésite, c'est à peu près 4000 par an. Ça fait 12 ou 13 hein, par jour. Donc, chiffre de l'INSERM. Hein. Et donc, mais c'est très difficile à évaluer, hein, parce que beaucoup de suicides d'enfants sont dissimulés par les médecins à cause de la douleur, ça représente extrême, en accident. Donc, l'interdit de l'inceste permet à l'individu de se découvrir comme sujet unique. Il m'arrivait donc de dire à ses élèves, écoute, sur les 80 milliards d'êtres humains qui sont succédés sur la Terre depuis, nous dit-on, les débuts de l'aventure, 7 millions et demi d'années, il n'y en a qu'un qui est toi, il n'y en aura pas deux. Voilà, c'est ça que le bébé, que l'enfant découvre dans la famille, c'est qu'il est unique. Et on connaît la difficulté d'éducation des jumeaux, précisément, vous voyez, pour leur apprendre à se différencier l'un de l'autre. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement important. Cet interdit, il ouvre à la liberté. La liberté singulière, unique, d'un sujet qui est unique lui aussi et qui le sera, j'allais dire, pour l'éternité, pour ceux qui croient en l'éternité, bien sûr. Donc il y a là quelque chose tout à fait important à comprendre, c'est que cette différenciation des générations permet à l'individu d'exister. D'exister, c'est-à-dire de exciter, sortir de soi, pour aller à la rencontre des autres. Et à l'âge de 3 ans, sans leur demander leur avis, et souvent 2 ans d'ailleurs, c'était un des aspects pervers de la décision de rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans, c'est que tous les enfants qui étaient scolarisés depuis l'âge de 2 ans risquent de ne plus l'être. Et il y a encore 24 000, 25 000 enfants de 3 ans qui ne sont pas scolarisés, donc ceux-là vont l'être. Mais tous ceux qui ont moins de 3 ans, on pourra toujours opposer aux familles. Voilà. En réalité, l'idée même qu'il y ait un âge pour entrer à l'école est une stupidité psychologique, médicale, de tout ce que vous voudrez. L'enfant va à l'école à partir du moment où il est propre. Voilà. Ben oui. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait que tous les enfants entrent au mois de septembre. Pourquoi ils entrent au mois de septembre ? J'ai 2 petits-fils, dont un est né le 27 décembre et l'autre le 16 janvier. Ben, celui du 27 décembre, il est rentré à l'école, il n'avait pas encore 3 ans. Et celui du 16 janvier, il avait 3 ans, quasiment plus de 6 mois, 9 mois. Une absurdité totale. Bon, bref. Mais ça, je ne suis pas ministre, hein, je n'ai pas encore eu mon mot à dire là-dessus, quoi, je ne m'en prive pas, mais je ne suis pas forcément écouté. Donc pourquoi y aurait-il un âge d'entrée à l'école ? À partir du moment où, en effet, le bébé est propre, il est apte à la relation, et voilà. Donc, même si de temps en temps, il peut se produire un accident. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il découvre à l'école, qu'il ne peut pas découvrir dans la famille ? Ben, il découvre que, tout à coup, alors, il y a des adultes qui ressemblent beaucoup à papa et à maman, mais qui sont justement pas du tout papa et maman. Parce qu'ils m'apprennent tout un tas de choses qui font que, progressivement, je vais en savoir plus qu'eux. Je vais pouvoir les égaler. Dans la famille, je ne peux pas rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné, à savoir la vie. Évidemment, les relations de dépendance peuvent s'inverser. Ma mère me torchait quand j'étais nourrisson, je la torcherai quand elle sera devenue grabataire, mais en attendant, l'obligation alimentaire réciproque inscrite dans la loi, etc. Je ne peux pas rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné. Et donc la dette ici est infinie. Alors qu'à l'école, cet adulte, ah mais justement, je vais à l'école pour m'élever à l'égalité avec cet adulte. Et les disciples dépassent les maîtres. Le professeur de biologie commence son cours en disant, vous savez, je ne sais toujours pas de quoi on parle quand on parle de l'objet même de ma science, c'est-à-dire la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Il y a des profs de biologie parmi nous? Non? Bon. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie? Le prof de physique commence son cours en disant, vous savez, la mécanique quantique et la relativité générale ne sont toujours pas conciliables. Voyez le dernier chapitre d'une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui expliquait, athée tout à fait convaincu, et il expliquait à la fin, dans le dernier chapitre d'une brève histoire du temps, quand nous aurons réussi à une théorie unifiée de l'univers, alors nous serons dans la pensée même de Dieu. Donc, c'est les dernières pages d'une brève histoire du temps. Donc, je ne peux pas découvrir. Alors, qu'est-ce que je ne peux pas découvrir dans la famille ce que je découvre à l'école, c'est-à-dire l'égalité. L'égalité avec mes pairs, P-A-I-R-S. Il y a là toute une série d'autres sujets humains, singuliers, qui sont de mon âge, ou grosso modo. Vous voyez, il y a là donc une égalité de situation qui fait que, en effet, à l'école, allez, dans la famille, je ne peux pas découvrir l'égalité. C'est les grands frères, les petites sœurs, les grands-pères, les grands-parents. C'est cette différenciation qui me permet d'exister comme sujet. À l'école, je découvre l'égalité. L'égalité citoyenne, c'est-à-dire qu'effectivement, les droits sont les mêmes pour tous, etc., etc. Donc il y a toute une série de situations institutionnelles qui me permettent de... C'est ce qui rend très problématique l'éducation en famille. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une grande mode qui se développe, surtout aux États-Unis, où les parents, classe moyenne, bien entendu, il faut avoir les moyens, vont prétendre instruire leurs enfants eux-mêmes. Eh bien, ça, ils peuvent les instruire. Quant à les éduquer, c'est une autre paire de manches. Parce que, précisément, l'institution scolaire qui n'est pas la famille, on appelle ça école maternelle. Philippe Mérieux avait proposé qu'on l'appelle école première. Mais, effectivement, l'école est tout sauf maternelle. L'école dans laquelle on entre, c'est une institution sociétale, c'est pas une communauté ni une famille, c'est une société. Et donc les règles dans une société de comportement les uns à l'égard des autres, les règles du vivre ensemble sont structurées par le droit. Tu n'as pas le droit, tu as le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit parce que tu as le droit, etc., etc. Bon. Et donc dans la cité, troisième lieu de socialisation, dans le milieu associatif, dans l'animation de rue, voyez les tous les livres sur la question de la place de l'enfant dans la ville, dans la cité, les enfants vont découvrir un troisième aspect des choses, une troisième exigence de socialisation, qui est la réciprocité dans le don réciproque. Il y a toujours des gamins, vous savez, une petite anecdote en passant, on me téléphone du commissariat de police, il y a un jeune lycéen de 18 ans dont je connais les parents, à Clichy-sous-Bois, qui vient d'être arrêté pour tentative d'incendie dans les locaux des assistantes sociales. Pour la énième fois, le père s'est vu refuser des aides pour payer des charges locatives, lesquelles charges locatives sont facturées par des sociétés d'entretien qui n'entretiennent rien du tout, et des ascenseurs constamment en panne, si bien que le gamin en terminale de lycée, quand même, à la sortie du lycée à Fred Nobel, à Clichy-sous-Bois, tu connais, à la sortie du lycée, les potes lui disent « Allez, viens, on va faire un baby-foot au troquet du coin ». La barrière blanche, là. On va faire un troquet, et le gamin, il accepte une fois, la deuxième fois, puis la troisième fois, il s'entend dire, dis donc, t'as que la gueule pour boire ou jouer, tu pourrais pas payer à ton tour. Il peut pas payer à son tour, parce que, effectivement, la situation du père fait qu'il n'a pas le moindre fifrelin en poche, comme argent de poche. Et donc, pour la énième fois, le père revient les mains vides du bureau des assistantes sociales, donc il prend un bidon d'essence et il va... Alors, les policiers qui connaissaient leur métier, effectivement, très, très... intelligemment, me téléphone en disant « Ce gamin a insisté pour qu'on lui téléphone. » Parce qu'alors, il y a le flic qui me dit, vous savez, tentative d'incendie volontaire, c'est 15 ans de réclusion. Il faut quand même pas déconner, quoi. Bon, il faudrait peut-être que quelqu'un lui explique au gamin que ça ne se fait pas. Et que les assistantes sociales, en plus, elles n'y sont pour rien dans la situation scandaleuse des copropriétés en déréliction, celles qui ont explosé en 2005, et dont tout le monde faisait semblant d'ignorer, il s'agissait de copropriétés gérées par des cabinets de syndics et des dizaines d'agences immobilières qui font leur beurre sur la crise du logement, laquelle, si on en croit les projets actuels, n'est pas prête de se résoudre. Donc dans la cité, il se passe un certain nombre de choses et on découvre, tac la gueule pour payer, et c'est l'exigence de réciprocité. C'est l'exigence d'égalité dans le don réciproque. On découvre ici quelque chose que La devise républicaine appelle la fraternité. Je préférerais qu'on appelle ça la solidarité. Vous voyez ? Mais bon, parce que fraternité, ça renvoie aux frères, d'abord. On ne sait pas très bien ce que font les sœurs. Et d'ailleurs, les filles sont très souvent exclues de l'espace public, hein, des rassemblements de jeunes au pied des immeubles, etc. Et dans l'espace public, quand on parle de l'enfant dans la ville, 90% des cas, c'est les garçons. Voilà. Et donc, ce troisième terme de la... Alors ça, c'est de la responsabilité des collectivités locales. C'est de la responsabilité des associations. C'est de la responsabilité des adultes dans la cité, qui ne sont pas forcément des professionnels de l'éducation, mais qui ont un rôle de citoyen, là aussi, à jouer tout à fait fondamental. Alors, ces trois pôles de socialisation, comment vont-ils s'articuler ? C'est ça, la question. Comment ne pas confondre les rôles et comment, en même temps, les connaître pour suffisamment ne pas avoir à renforcer, au moins déjà, à ne pas renforcer les difficultés de socialisation que peuvent connaître nos enfants dans le rapport au temps, dans le rapport à l'espace, dans le rapport à la loi, dans le rapport à l'argent même, etc. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Eh bien, il y a...